Autre radio, autre culture, bonjour, nous revoilà dans le midi, dans le maquis du Cap Sissier, à l'ombre d'un chêne vert et de la salse pareille, qui grimpe comme ça de manière alerte. Nous sommes quatre. Alors nous avons notre cher ingénieur du son Philippe Labroux, nous avons notre membre du CNRS Michel Defler, un jeune que nous avons tiré de son lit Quentin Corollaire, et moi Marion Delay qui sommes à la recherche de graffitis de marine. Alors nous avions connu il y a à peu près une quinzaine d'années, nous avions appris qu'il y avait des graffitis dans tout le Cap Sissier représentant des bateaux de toute époque et de toute tradition. Donc on est parti, les sacs à dos bien remplis de bouteilles d'eau et à la recherche de ces fameux graffitis dont certains ont été retrouvés et déclarés par Monsieur Bonhomme.
Partout.
J'ai l'impression que ce rocher est truffé.
Et là, le mec, il est bon. Hein. Bah, là, il te fait des voiles. Si, là, il y en a des. Là, il y en a vraiment
le
des super.
Le lichen.
Bah, là,
là
moi,
j'en ai un à voile latine, mais il est recouvert par le lichen.
J'ai même pas de lichen là, ils sont super.
On a peut-être pris des trop grosses pastilles.
Je pense que je colle dessus.
Bah, non, faut qu'on les voit.
Non, mais je veux bien, mais. Non, mais c'est-à-dire que là, t'en as plein et t'en as partout, là. Je peux pas.
C'est une ouille.
Ceux-là sont assez frustes. Par contre, sur le soleil, c'est intéressant parce que ça a l'air d'être une nef latine. Donc plus ancienne.
Regarde tout là. Et là, tu vois, regarde, assez travaillé, quoi. Et là, il y en a des bouts. Regarde celui-là.
Là, t'en as un, t'en as deux, t'en as trois. Ici, c'est une fuste, visiblement. Une petite galère. On voit bien le gouvernail arrondi.
Ouais.
Là, par contre, ce qui est intéressant, c'est que le galère d'arrière, il déborde un peu comme sur un chébec.
Ah,
vous voyez ça?
C'est
intéressant.
Moi, je suis dans le lichen, là. C'est il y a des rames, c'est une galère.
Apparemment, il y a quand même beaucoup de bâtiments du type de la galère. Ici, il y en a aussi, mais ils sont à moitié rongés par le lichen.
Mais j'ai un couteau, si tu veux, on peut peut-être essayer de gratter.
Non. Enfin, t'en as un là aussi.
Fais-moi le malin, ça. Mais...
Tiens, t'en as encore un là. Tu vois la coque qui est en mature là.
Mais le problème, c'est que là, il y en a partout. Ouais. On colle une pastille, on colle dessus.
Oh là.
Vous avez vu, ils sont chouettes, ces deux-là. Regarde les deux là.
Le côté normand qui ressort.
Ça, c'est des navires 15e sans aucune hésitation.
Là, il y en a un ami.
Intéressant, il y a trois mâts. Une civadière
et
un hunier. Celui-là, c'est le même. On a en fait au moins trois navires du même type là.
Attends, il faut que je me mette un dessus. J'en ai un là. Je sais pas ce que c'est. Avec voile latine et tout.
Alors, c'est étonnant aussi. Il y a une zone. En fait, on a plusieurs fois représenté le même type de bâtiment.
Ouais. Il y a autre chose là.
Mais il dessine bien.
Attends.
Enfin, pour redessiner comme ça dans cette roche là.
Le problème, c'est que l'Iken est passé par-dessus.
Là, ils sont pas passés par-dessus. Ils sont nickel là, ceux-là.
Celui-là, il doit être très très beau.
Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que tu vois en fait différents types de bâtiments, des grands bâtiments latins, de commerce,
évidemment. Ouais. D'autres années quoi ou plus...
Je pense que ceux qui sont en voie latine sont peut-être plus anciens. Et ceux à Farquhar sont peut-être plus récents. De toute façon, ceux qui sont à Farquhar à trois mains, c'est probablement des bâtiments du 15e.
Alors on en a trouvé déjà la semaine dernière, nous sommes allés retrouver des graffitis qui étaient minuscules, qui faisaient à peu près 1 cm², dont Michel Defler va vous en parler.
Eh bien, ces graffitis donc, représentent essentiellement des navires méditerranéens et également des navires qui sont plutôt des types ponantés, donc les uns donc, avec des voiles latines triangulaires, certains représentant donc, de superbes galères de la fin de l'époque médiévale, et d'autres représentant des bâtiments de commerce comme des polacres ou des tartanes, ainsi que donc, de plus grands bâtiments à voile carrée de la fin du XVIe siècle, avec donc, des grandes voiles sur trois mâts, avec une coque qui est bien représentée, une coque qui remonte très en arrière avec des gaillards, des dunettes et un château à l'avant. Et ceci donc certainement donc représentait les bâtiments que pouvaient voir les habitants donc des lieux ou les guetteurs qui surveillaient également les côtes qui étaient à l'époque très dangereuses. Ils guettaient notamment l'arrivée des barbaresques qui faisaient des razzias sur les côtes et capturaient donc les habitants pour les amener en esclavage ou rameurs sur leurs galères. Donc nous avons en fait une bonne représentation de ces bâtiments qu'ils devaient voir tous les jours et qui sont pour la plupart réalisés d'une façon très réaliste. Bien que ce soit de véritables petites miniatures, c'est vraiment de petits bijoux de représentation et également de très bons témoignages de la vie maritime à la fin du XVIe siècle et à la fin du Moyen-Âge, donc sur cette côte provençale.
Alors effectivement, les graffitis que l'on a trouvés déjà la semaine dernière, ce sont des espèces de petits timbres-poste où nous avions été très surpris de la qualité Mais du graffiti. Alors on voit par exemple les voiles qui sont ferlées, des petits bonshommes à bord, on voit les nids de pie, on voit la civadière à l'avant, tout est très très bien indiqué. Toi Michel qui a beaucoup travaillé sur les graffitis normands, ça t'étonne pas de voir cette taille déjà assez bizarre et de voir aussi cette qualité du graffiti?
Là, ce qui était surprenant déjà, c'était la taille. Donc, parce qu'on a eu déjà beaucoup de mal pour les retrouver. Parce que donc, j'étais habitué en Normandie à avoir donc, des graffitis de navires qui étaient souvent donc, longs, donc, des fois de 10, même 20 cm. Et j'en ai même retrouvé qui font près de 2 mètres. Et là, en fait, on se retrouve avec des graffitis extrêmement minuscules, alors qu'en fait, ils disposent d'une surface de travail plus importante, qui pourrait représenter des navires plus importants. Alors, bon, la raison, ça, malheureusement, on ne la connaît pas, mais ce qui est très surprenant, c'est qu'ils ont fait des navires très petits, mais par contre, ils ont soigné des détails que l'on ne voit quelquefois pas sur les grands graffitis normands, d'ailleurs. Avec la représentation donc, des différentes lèzes, donc des différentes toiles qui étaient cousues sur les voiles, hein, pour réaliser les voiles. On voit sur certains navires le tracé donc, des planches de la coque, les petits membres d'équipage qui sont à l'échelle du navire, et ainsi que sur certains, on voit même également des éléments donc, du gréement, des cordages, pouvant manœuvrer les voiles et les vergues. Alors que certains graffitis normands, certains sont très précis également, donc vu leur taille, ce n'est pas étonnant, ils ont toute la place nécessaire pour le réaliser. Mais d'autres, malheureusement, sont beaucoup plus frustes, et ceux-ci donc, sont une très bonne facture, et ils sont largement à la hauteur donc, des graffitis que je retrouve en Normandie.
Alors certains ont même les pavillons, il y en a peut-être quelques-uns qui vont être reconnaissables, d'ailleurs, avec l'étude qui va en être faite. C'est assez surprenant quand même, cette qualité. Alors ce qui m'a étonné, là pour aujourd'hui, nous sommes retournés dans un autre endroit pour trouver des graffitis, qui sont ceux-là un petit peu plus grands, qui ont une taille qui est plus généreuse, dirais-je. Plus ancien ou plus récent que ceux de la semaine dernière ?
Le peu que j'ai pu en voir montrerait des bâtiments qui sont peut-être un peu plus anciens que ceux qu'on a vu la semaine dernière. Notamment, donc, on a plusieurs bâtiments à voile carré, des trois mâts déjà, avec donc des très hauts châteaux avant et arrière, dont le château avant se prolonge très en avant, et avec un tout petit hunier, donc une petite voile qui était au-dessus de la grand voile, et qui dénote en fait des bâtiments qui sont certainement de la fin du 15e siècle plutôt. Donc un peu plus anciens que ceux qu'on a vu la semaine dernière.
Alors ce qui m'a étonné aussi, là je vais parler à Quentin Corollaire. Quentin, je ne pense pas que tu as eu l'habitude de trouver des graffitis dans ta vie, enfin c'est pas quelque chose que tu fais habituellement. Et là j'étais vraiment impressionnée par l'œil que tu avais pour retrouver tous ces bateaux.
Ça c'est l'œil des champignons. Non mais voilà, après on en voit un et puis ils apparaissent assez rapidement. On voit juste quelques traits sur les rochers et puis on les voit apparaître assez facilement derrière.
Alors, Quentin a crapahuté dans les rochers pour en trouver. Il nous en a trouvé déjà pas mal, d'ailleurs. Pendant qu'on faisait des relevés et des photos, il en trouvait d'autres. Et finalement, ça a l'air d'être ininterrompu. On a l'impression qu'à chaque bloc de rocher, on en trouve et on en retrouve encore. Ça semble effarant, le nombre de graffitis de bateaux. Alors, il y a d'autres graffitis. Bon, là, on a vu principalement les bateaux. Là, on a aperçu également deux hommes en train de se battre à l'épée. Je sais que pour d'autres qui ont cherché, dont M. Bonhomme et dont Philippe Rigaud, ils ont trouvé, eux, des personnages avec des bergers, des choses comme ça, et avec des dates qui sont du 19e siècle ou du 18e. Là, on est dans des parties quand même qui sont beaucoup plus anciennes.
Apparemment, donc, ce sont des bâtiments, enfin des parties plus anciennes et qui sont très orientées sur l'aspect maritime, vu maritime. Bien que plus haut, j'ai également retrouvé en fait une représentation d'une croix, pâtée, peut-être l'ordre de Malte ou un ordre militaire religieux quelconque, peut-être auquel appartenait peut-être celui qui a réalisé ce graffiti. Et ce qui n'est pas étonnant, parce qu'on a retrouvé également donc, des représentations de galères, donc de navires de guerre, auxquels devait peut-être appartenir cet ordre. Ce qu'on peut également dire, c'est que bien souvent, ces ordres militaires donc, faisaient également la patrouille, patrouiller le long des côtes pour essayer donc, de chasser les quelques pirates qui fleurissaient sur cette côte. Non seulement les barbaresques, mais également, on sait qu'au XVe siècle, les Basques étaient des gens très actifs dans ce domaine. Et on a retrouvé en archive plusieurs plaîtres se plaignant de leurs actions contre à la fois le commerce maritime, mais également contre les razzias sur les villages, sur la côte. Et d'ailleurs, certains navires que l'on a vus, donc à voile carrée, peut-être seraient des bâtiments issus donc des côtes ponantaises et qui seraient venus soit pour des raisons pacifiques ou pour des raisons moins avouables, disons, en Méditerranée.
On sait aussi quand même qu'il y a un gros commerce avec le Ponant, oui, le Ponant, hein, de toute façon. Donc ça semble normal de voir des bâtiments à voile carrée arriver ici. Ce qui semble surprenant, c'est d'avoir vu la semaine dernière des bâtiments qui sembleraient des chébecs à trois mâts à voile latine. Bon, ce ne sont pas les seuls. Les études permettront de démontrer si ce sont des chébecs ou pas. En fait, ce qui est assez extraordinaire, c'est la variété que l'on a, qui est plus qu'on ne pouvait imaginer.
Cette variété, disons, n'est pas en soi étonnante. On sait qu'en Méditerranée, donc, on avait une variété de types de navires, de types de gréements. Dès la fin du XVe siècle, on retrouve des mélanges de gréements. C'est une période en fait, où ils commencent à adopter des types de gréements ponantés, donc des voiles carrées sur des bâtiments à l'origine gris en latin, pour tout simplement permettre de diminuer l'équipage et donc le coût donc d'armement des bâtiments. Une voile carrée demandant un équipage plus réduit sur ces bâtiments de commerce. Et bien souvent, donc, on voit ce qu'on appelle notamment les polacres, hein, donc, qui sont des bâtiments qui associent à la fois une grande voile latine triangulaire à l'avant et des voiles carrées sur le grand mât. Et c'est ce qu'on a vu sur certains graffitis de la semaine dernière. On voit des bâtiments qui probablement étaient à l'origine gris en latin, avec un mât de misaine, donc le mât de trinquet à l'avant, qui est très, très appliqué vers l'avant, qui dénote en fait à l'origine un gréement latin et qui était là gris à carré.
Alors on voit également des détails, on a vu les personnages à bord, on voit même le détail des vêtements. Et ça c'est sur des petits graffitis qui font 5-6 cm de long sur à peu près 4 cm de large. On voit donc ces fameux nids de pie. On voit par exemple quand les voiles sont ferlées ou pas. Enfin plein de minuscules petits détails, la petite embarcation qui est derrière, que l'on n'imaginait pas donc pour ces petites tailles. Alors là on a retrouvé donc sur une roche, une seule roche, à peu près 59 graffitis que l'on est en train de relever, qui sont principalement des galères, mais il y a de tout en fait. Hein. Peut-être ce qu'on appelle des cogs, il semblerait qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus nordiques. Et à un moment, on voit une espèce de nom qui apparaît avec un J et ensuite un Y. Après, on n'a pas réussi à déterminer trop. Est-ce que c'est le nom du dessinateur? Ça, c'est le mystère. Vous en avez trouvé d'autres, dans d'autres types de rochers, où vous avez vu des galères également, toujours récurrents.
Plus haut, oui. En fait, en montant donc vers le sommet, en fait, on a d'une part découvert en fait, que cette partie du Cap Sissier permet donc de découvrir une bonne partie de la côte. Donc, ce qui est en fait un bon point d'observation pour les guetteurs. Et un peu plus bas donc, de ce point d'observation, on a retrouvé des graffitis de bâtiments latins, notamment des petites galères, ce qu'on appelle peut-être des galiotes, donc avec les deux voiles latines et puis donc les rangées de rames. Hein. Avec à l'arrière le gouvernail, avec le bar de gouvernail, très très bien dessiné. Et d'autres bâtiments également latins, probablement de commerce. Et il y a quand même une récurrence quand même du type de bâtiment méditerranéen qui ressort essentiellement sur ces graffitis. Ce qui est normal en Méditerranée.
Ce qui est impressionnant quand même, c'est le nombre de galères, ou de galiotes, enfin.
Impressionnant, je dirais oui non. Peut-être que ces galiotes permettaient, vous savez également peut-être au commerce d'une certaine manière. Peut-être qu'ils ont peut-être surreprésenté ces galiotes qui étaient également des bâtiments rapides, qui étaient aussi très utilisés par les corsaires ou les pirates. Donc, tendance à représenter ces bâtiments comme attention, c'est ce qu'on voit le plus, c'est faire attention à ces bâtiments, quoi, qui sont des bâtiments dangereux pour les populations.
Alors, on a également aperçu une tartane, ce qui semble peu courant finalement dans les graffitis que l'on a pu regarder. On est à peu près à 90 graffitis, on n'a eu qu'une tartane.
Oui. C'est vrai qu'il peut paraître étonnant vu que la tartane était un bâtiment très, très courant sur ces côtes provençales et aussi bien sur les côtes italiennes. Ça, c'est, malheureusement, je ne m'explique pas bon, pourquoi en fait, c'est si peu représenté. Alors que d'autres bâtiments qui doivent être plus rares, comme les bâtiments à Farcari, qui doivent être plus rares sur ces côtes-là, sont peut-être plus représentés que d'autres qui étaient beaucoup plus courants. Ça.
Alors parfois on a une escadre aussi, enfin une escadre c'est un bien grand mot, mais on a vu 4 ou 5 petits bateaux qui étaient gravés ensemble, qui sont du même type, avec la voile qui est carrée au centre. T'as une idée de ce que ça peut être?
Oui, c'est une méthode assez courante depuis presque l'Antiquité, c'est donc pour des mers qui sont dangereuses, il est préférable de naviguer par petite escadre, de façon à avoir plus grande possibilité de se défendre contre un corsaire qui voudrait les attaquer. Donc un corsaire cherchera plutôt à attaquer un bâtiment isolé, qu'il aura plus de chances à maîtriser, plutôt qu'une escadre où les autres navires pourront en fait se défendre et entourer le prédateur, entre guillemets, qui malheureusement sera là en mauvaise posture. Vu qu'à l'époque, l'abordage était en fait le combat en règle, plutôt que l'artillerie. On ne cherchait pas à couler le navire ennemi, mais plutôt à le capturer intact. Donc, s'ils rencontrent en fait, qu'il est en nombre insuffisant en hommes, ils préfèrent éviter le combat. D'où en fait, ces escadres qui devaient être assez courantes sur Méditerranée à cette époque-là.
Alors, le plus étonnant, c'est quand même de voir ces graffitis qui sont en pleine montagne. Il y en a certains où on peut apercevoir la mer, donc on peut imaginer que ce sont des gens qui surveillent et qui dessinent un petit peu ce qu'ils voient. Et puis, il y en a d'autres, on est vraiment comme ici... On est vraiment dans la cambrousse, on est dans le maquis, sur le rocher, à des endroits qui sont quand même difficiles d'accès. Tu as une idée de ce que ça peut être? Pourquoi?
Déjà, donc, c'est difficile d'accès. Actuellement, oui, ce sont des zones qui sont difficiles d'accès, mais qu'en était-il il y a 3 ou 4 siècles? Est-ce que c'était des chemins qui étaient mieux entretenus, donc plus faciles d'accès? Ne serait-ce que pour les guetteurs. On voit mal des guetteurs crapahuter dans ce maquis et de redescendre rapidement pour donner l'alerte. Il devait y avoir certainement à l'époque des chemins beaucoup plus praticables qui permettaient en fait donc, d'aller et venir. Il est probable également qu'il pouvait y avoir des équipes, donc peut-être des sortes de cars, ce qui fait que ceux qui étaient au repos peut-être s'amusaient à graffiter les navires qu'ils avaient vus ou bien les navires qu'ils avaient en tête, qu'ils connaissaient, pendant que en fait, leurs collègues étaient en train de surveiller la côte.
Bien, ben nous allons recommencer nos relevés. Là, nous étions à l'ombre. C'était très agréable. On attendait un petit peu que le soleil descende pour pouvoir photographier avec un peu plus de relief ces fameux graffitis. Nous allons continuer à faire les relevés. Et bien, on vous retrouve tout à l'heure.
Et bien, tout à l'heure.
On a trouvé des pas mal.
Ouais.
On a trouvé un grand.
On a trouvé une belle galère. Hein. Général, c'est une petite galère, toute voile dehors avec ses rames. Très bien dessinée.
Nous voilà de retour au bureau. Michel Desflers est devant son ordinateur à inspecter et observer ces fameux graffitis dont on a fait les photos. Moi, je suis sur d'autres types de graffitis. Et là, je suis sur un navire qui serait fin 15e siècle. Alors Michel, moi, je suis en train de regarder la photo 62.
Alors ce bâtiment donc, est assez intéressant parce qu'en fait, il représente un bâtiment à voile carrée. Donc un type de gréement qui a son origine plutôt donc sur l'Atlantique, la Manche, et qui a été introduit progressivement à partir du XIIIe siècle en Méditerranée, XIIIe, XIVe siècle. Et là, nous sommes en fait en face d'un bâtiment qui représente donc qui présente des châteaux arrière très importants, assez hauts, un château avant qui est assez haut également, mais qui déborde sur l'avant. Le type de voilure commence à se diversifier. On commence à voir donc un second étage de voile qui apparaît sur le grand mât. Le bâtiment dispose donc de 3 mâts, ce qui nous amène à des périodes postérieures aux années 1510 environ, 1410 environ plutôt. Et c'est un type de bâtiment qui existait naturellement déjà à cette époque-là en Méditerranée, qui est assez proche de ce qu'on appelait donc une caraque ou une nave, selon l'appellation, et qui était primitivement destiné à transporter donc des marchandises assez pondéreuses, et qui occasionnellement pouvait également servir de navire de combat en raison donc de ces hauts châteaux sur lesquels on pouvait placer donc une artillerie légère. Donc à l'époque, on pouvait placer ce qu'on appelle des pierriers, donc des canons qui se chargeaient par un système de boîtes que l'on mettait dans la culasse de la pièce et qui donc était chargé avec des pierres, qui était utilisé généralement avant l'abordage. Mais ce type de bâtiment existait aussi donc au Ponant, notamment on sait que les Basques ou même les Espagnols l'ont beaucoup utilisé donc pour commercer avec l'Italie, la Sicile, et même faire des opérations de course contre les barbaresques ou même contre d'autres navires italiens. C'est une source importante d'enrichissement.
Alors, Michel, moi je vais te poser des questions parce que je suis devant ce fameux graffiti. Alors je vais te poser la première question. Où vois-tu le troisième mât? J'ai le mât central, légèrement un peu penché, avec une voile carrée. Je vois le mât d'artimon à l'arrière avec une voile latine. Mais je vois pas de ce qu'on pourrait appeler un mât trinqué ou mât de misaine.
Ah, en fait, quand on zoome sur les relevés, sur les photos, on remarque donc que le bâtiment, à partir avant, a son château qui s'élève très fortement. Et c'est au niveau donc de ce château qui déborde sur l'étrave que se trouve placé ce petit mât, en fait, qui à l'époque est un mât destiné à porter une voile de manœuvre. La surface est assez faible et on le distingue assez bien quand on zoome à l'avant.
On a souvent des représentations de ce type de mâture, enfin de ce type de navire. Ils ont un mât qui est légèrement penché. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un petit peu... C'est soit le dessinateur, enfin le graveur qui a décidé de faire ces mâts un peu penchés, ou soit ils reprennent la tradition méditerranéenne qui serait un petit peu différente de la tradition ponantaise ?
C'est possible, quoique l'on connaît également des dessins du début du XVIe siècle, représentant donc des ports méditerranéens, où l'on voit donc également le mât de l'avant qui se trouve assez incliné vers l'avant. Et il est très possible à cette époque, en plus on est à la fin du XVe ou début du XVIe siècle, on s'aperçoit grâce à l'archéologie que des mélanges de techniques de construction, des techniques de gréement commencent à apparaître très fortement. Les constructeurs essayent différentes techniques pour améliorer leur navire ou améliorer la navigabilité de leur bâtiment. On va également commencer à avoir une diversification au niveau de la voilure. Donc, si la voilure se modifie, forcément, on est obligé de modifier également la coque et la position des mâts. Donc, il est également possible que certains constructeurs ont pu essayer donc une nouvelle mâture inspirée également de la Méditerranée, en sachant très bien que les constructeurs voyageaient beaucoup plus qu'on ne pensait. Et certains ont très bien pu donc travailler dans les chantiers soit de Marseille ou soit de la Seine et adopter certaines techniques.
Alors sur le même graffiti, tu reviens sur le graffiti donc 18 je crois, on voit au niveau du gouvernail, curieusement on a un gouvernail des tambours. Donc ça peut déjà donner une idée de la datation. Et alors, ce qui paraît surprenant, c'est qu'on a l'impression qu'on a un gouvernail un tout petit peu incurvé. Je ne sais pas si tu remarques.
Oui, alors ça, ce gouvernail en fait est très, très étonnant. C'est que d'une part, un gouvernail des tambours, cela n'est pas étonnant à cette époque, parce que le gouvernail des tambours apparaît en Méditerranée en même temps qu'apparaît la voile carrée. On suppose importé par des marins ponantais, basques ou espagnols.
On voit beaucoup de navires au XIVe siècle et au tout début du XVe siècle, ils ont encore des gouvernails qui se situent au niveau latéral, je veux dire.
Ah ben c'est même assez courant. Donc nous trouvons notamment dans la représentation, le plan de Venise, enfin la vue de Venise par Jacopo di Barbari au tout début du XVIe siècle, des bâtiments qui ont à la fois des gouvernails latéraux et un gouvernail des tambours. Cela était fréquent donc parce que le gouvernail des tambours était considéré comme quelque chose d'assez fragile et il conservait toujours en cas de problème deux gouvernails latéraux qu'il pouvait remettre en place. Ce qui est par contre plus étonnant, c'est cette forme courbe
qui ressemble un peu au gouvernail, enfin,
des galères,
à celui
oui.
des galères, voilà.
Et fait beaucoup penser en fait à un bâtiment méditerranéen. Ce qui est encore également surprenant, c'est que ce gouvernail remonte jusqu'au niveau, donc jusqu'en haut du château arrière. Alors que généralement, pour des grands bâtiments ponantais, il y avait une sorte de voûte à l'arrière dans laquelle le gouvernail ensuite s'arrêtait et une barre permettait de manœuvrer ce gouvernail. Alors là, on a en fait quelque chose d'assez étonnant, bien que la disposition du bâtiment, trois mâts, château avant, château arrière assez important, montre qu'on a affaire quand même à un bâtiment d'un tonnage assez conséquent, du genre 100 ou 200 tonneaux. Et ce type de gouvernail se retrouve également sur d'autres graffitis qui sont assez proches sur la même roche, et qui représente le même type de bâtiment, ce qui donc indique que c'était quelque chose qui se pratiquait déjà à cette époque-là sur ce type de navire. Alors il est très possible que nous sommes en fait en présence d'un bâtiment méditerranéen ayant adopté certaines techniques ponantaises, ne serait-ce que pour la voilure et la mâture, et ayant conservé pour la coque et pour le gouvernail des pratiques mitterrandiennes. Mm-hmm. Ce qui également montre l'intérêt de ce type de graffiti, de documents, qui mettent en évidence donc, des bâtiments qui ne sont pas souvent représentés dans l'iconographie classique.
C'est vrai qu'on a on disait ça hier, quand on était sur le site, il y a un grand nombre de représentations de types de navires, très très différents. On n'a pas encore fait, je pense qu'il y a des associations qui travaillent sur ces types de graffiti, mais on n'a pas encore fait véritablement le dénombrement de chaque type différent, c'est-à-dire faire une base de données de tout ça.
Disons que je crois qu'il y a une association qui commence à travailler sur ce sujet donc sur Provence. Et donc c'est un sujet qui est extrêmement vaste, que je travaille également sur Normandie, et on est confronté en fait au même problème. On trouve des représentations de bâtiments qui sont assez énigmatiques pour nous, parce qu'en fait on n'a aucun élément de comparaison, et on cherche un petit peu à comprendre comment ces représentations ont pu se être réalisé. Soit l'artiste a représenté ce qu'il connaissait, soit il y a peut-être mis un petit peu de sa patte et réalisé un bâtiment un petit peu différent et un petit peu imaginaire. Bien que ces bâtiments-là, ces gravures telles qu'elles sont représentées, sont quand même très réalistes, puisqu'il a même représenté les étés, il a représenté certains éléments de gréement permettant donc d'orienter les voiles. La forme des voiles également est très bien représentée. Il y a quand même un souci de réalisme dans ce type de document. Et si on a cet arrière particulier, ce qu'on est particulier, je pense qu'il devait exister à cette époque-là sur ce bâtiment-là.
Dernière question sur le bâtiment. À ton avis, c'est un bâtiment dont on voit la quille, ou alors il est encore, c'est juste au niveau de la ligne d'eau?
Vu la faible profondeur au niveau central dans ce qu'on appelle de l'ambelle, il est très probable que le bâtiment représentait à la flottaison.
Voilà, ce qui veut dire qu'on a un gouvernail ici qui est dessiné, qui est très 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 long.
Qui dans ce cas est très très long, ce qui descend encore sous la flottaison dans ce cas-là.
Très bien. Alors là, on a juste commencé la pêche au graffiti qui pouvait nous intéresser, donc ceux qui pourraient ressembler à des navires ponantés, donc qui pourraient toi t'aider à ta recherche en Normandie. Moi qui recherche plutôt des navires agrément latin par rapport au travail que je fais sur les chébecs, évidemment c'est passionnant, évidemment c'est un énorme travail qui peut durer pendant des années et des années et faire plusieurs vies d'hommes. Donc nous, on continue un petit peu ce qui a commencé Monsieur Bonhomme il y a une vingtaine d'années maintenant. Et je sais que Philippe Rigaud travaille également là-dessus. Eh bien, on a encore beaucoup de pain sur la planche.
Oui, surtout que là, on travaille sur une période qui est très mal connue, donc et dont on dispose donc de peu de documents d'archives par rapport aux autres périodes comme le 17e et le 18e siècle. Et il est très probable également que des découvertes archéologiques permettront de mieux comprendre cette marine et de mieux expliquer donc les détails que l'on voit sur ce genre de graffiti.
Donc on vous tient au courant de nos poursuites dans la recherche de l'architecture navale du 15e, 16e, 17e et 18e siècle. On vous tiendra au courant par autre radio, autre culture. À très bientôt, on vous laisse, nous on reste à Toulon. Et vous, écoutez, bonjour à tout le monde. Au revoir, autre radio. Autre culture. Autre radio, autre culture.